Oreste et Électre, de Nikos Ligeros. Prologue. La guerre de Troie et la malédiction des Atrides.
Par où commencer? Comment raconter l'indicible malheur qui s'est abattu sur la maison des Atrides? Et qui d'entre vous a assez souffert pour comprendre ce récit? Seuls les devins ont pu le prévoir. Calchas a su voir le danger. Tirésias l'a compris, Cassandre l'a vécu et l'a vu se réaliser. Le présage des aigles était pourtant clair, mais nul autre que Calchas n'avait les yeux de la sagesse. Tous n'étaient que colère et vengeance. Voilà pourquoi eut lieu le sacrifice monstrueux. Les dieux avaient décidé de faire souffrir la race des Atrides plus que tout autre. Ainsi, les Grecs naviguèrent sur le sang de la pauvre Iphigénie et luttèrent 10 ans durant à perdre les plus valeureux de leurs hommes. Les guerres, les batailles, les combats, les duels, tous menaient au bûcher de la délivrance, ce feu qui libère le corps de toutes ses souffrances et qui le purifie afin que sa poussière se repose enfin dans la terre. 10 ans de luttes et de peines offertes à la gloire. Cependant, l'étoffe des héros est trop lourde à porter pour le vivant. Seul, le mort est capable de réussir cette prouesse et il lui faut l'éternité.
Le savoir a beau être une forme abstraite de pouvoir. Même l'homme ne réussit à transformer la réalité que par petites touches. Elles sont tout d'abord imperceptibles, mais avec le temps, elles prennent de l'importance. Et les dieux sont passés maîtres dans cet art. Ainsi, chaque action, chaque acte de la guerre de Troie aura eu et aura des conséquences sur l'ensemble des hommes qui habitent la terre des dieux que certains nomment la Grèce. Un sacrifice sera suivi d'une vengeance, un sacrilège, d'une condamnation, un crime, d'un châtiment. Les devins auront beau dire, ils n'y changeront rien. Les hommes n'écoutent que ce qu'ils veulent entendre. Ces derniers, plus ils sont grands, plus ils se croient à l'abri du destin. Mais ils paient très cher cette funeste vanité, car le destin les frappe avec d'autant plus de violence. Et bien souvent, ce coup leur est fatal.
Agamemnon, le roi de Mycène riche en or, était de ceux-là. Sa gloire lui fit oublier la malédiction des Pélopides. Et même le monstrueux sacrifice de sa fille, exigé par la sournoise Artémis, qui lui arracha une partie de sa propre chair, ne fut suffisant pour le prévenir de la vengeance qui planait sur lui. La colère d'Achille passée, la mort de son fidèle ami Patrocle, suivie de celle du plus valeureux de nos ennemis, Hector, ainsi que celle d'Achille lui-même, le plus lumineux de nos guerriers, n'eurent pour conséquence que d'augmenter sa gloire. Et après la réussite de l'ingénieux Ulysse et la chute de l'imprenable Troie, le roi des rois se prit pour un géant, sans réaliser que sa grandeur ne provenait que du fil avec lequel le destin le tenait suspendu. Aussi, il retourna sur ses terres, se croyant à l'abri de tout danger.
C'est donc ici que s'écrivit une des pages les plus sombres de la famille des Atrides. C'est ici qu'eut lieu le plus horrible des crimes. Agamemnon aurait dû se méfier. Mais il est vrai qu'ayant survécu à une guerre de 10 ans, comment aurait-il pu imaginer que le plus grand des dangers pour lui se trouvait au sein de sa maison, dans son propre lit? Sa femme Clytemnestre avait pris pour amant Égiste, le fils de Thieste et cousin d'Agamemnon lui-même. Mais l'adultère ne lui avait pas suffi pour se venger. Elle prépara un plan pour assassiner le roi, son mari et protecteur. Elle lui conseilla de faire annoncer son arrivée par de puissantes torches placées sur les sommets des îles qui les séparaient de sa patrie. Ainsi le siège de Troie finit, la ville mise à sac, elle apprit par les feux la venue d'Agamemnon. À peine arrivée dans sa patrie, accompagnée de la pauvre Cassandre, elle le persuada d'emprunter un chemin de pourpre pour rentrer au palais. bien que cela soit réservé au statut de divinité, le roi se laissa convaincre, pensant faire preuve d'humilité, le malheureux. La perfide femme, qui avait tissé sa toile d'araignée, commença à la resserrer sur lui, tel un filet du sort.
Elle l'entraîna donc et lui fit prendre son bain. Et là, aidé de son infâme amant, l'entoura d'un voile pour l'immobiliser. Ensuite, sans qu'il puisse se défendre, la double hache de la revanche s'abattit par 3 fois sur son corps gémissant. Cependant, l'infamie et la perfidie, non contentes du succès de leur complicité, se mirent à lui découper ses membres alors qu'il agonisait encore. Cet horrible cauchemar ne se termina que lorsqu'il fut vidé de tout son sang. Noyé dans son propre sang, ses membres épars, il cracha alors son âme dans un dernier soupir. Celle-ci démembrée, ne pouvant se venger, s'enfuit sur le champ. Grâce à ce crime monstrueux, le couple sanguinaire s'empara du trône de Mycène. Heureusement, dans sa sagesse, Électre parvint à faire échapper en Phocide le jeune Oreste avec son pédagogue. Depuis, la tyrannie écrase du pied notre patrie, et Électre, en esclave du palais, endure les pires tortures. Désormais, notre unique espoir porte un nom. Oreste !